Și tu je confrontez un problème, c'est quand je pas intervenir dans ce colloque, c'est-à-dire que je parlerai d'un pays où on, qui pour moi, en tant que Mexicain, mais je pense que pour beaucoup de monde, un énigme à résoudre, puisque c'est un pays qui, depuis une dizaine d'années, connaît une explosion incroyable de violence, qui se manifeste surtout par la mort violente de plus de 200 000 personnes, et, alors que c'est un pays qui n'est pas en guerre, en tout cas officiellement, il n'y a pas de conflit institutionnalisé ou institutionnel, il n'y a pas de guerre civile. Comment on explique ça? En plus que c'est des expressions de violence extrêmement choquantes, parce qu'elles sont extrêmement visibles, mises en scène, même surjouées, des corps qui sont exposés un peu dans l'espace public, partout. Mais ne vous inquiétez pas, je ne veux pas parler de ça aujourd'hui. Je crois que vous avez entendu beaucoup parler de ça. Je parlerai d'un autre type de violence qui est tout aussi extrême, mais dont peut-être la profondeur de cette violence, c'est qu'on ne la voit pas. Et c'est une violence qui s'exerce aussi sur le corps et qui affecte énormément de monde, mais qui est une violence qui est cachée, qui est invisibilisée par l'État et par la société. Donc c'est la violence des gens qui sont disparus, des gens qui sont enlevés pour des raisons très, très diverses, très, très hétérogènes. Pourquoi j'ai choisi de parler de ça? C'est pas simplement parce que je travaille sur ce sujet depuis un moment, accompagnant surtout les victimes, les familles des victimes, dans le processus de comment rendre visible cette violence, mais surtout parce que en faisant cela, je peux cru comprendre comment ça se met en place la mécanique étatique au Mexique pour gérer la violence et les manifestations de violence et comment l'État arrive à faire en sorte que cet excès de violence qui est extrême ne déborde pas dans une rébellion, dans une rupture du système politique. Comment le système politique arrive à se maintenir? Je n'ai pas toutes les réponses, même je ne crois pas avoir de réponses, mais j'ai quelques pistes que je vous expose ici très rapidement. Je commence par trois histoires, beaucoup d'histoires que j'ai pu suivre ces dernières années, que je vous exposerai très, très brièvement. La première histoire, c'est l'histoire d'Alejandro, qui est un jeune ingénieur en informatique qui habitait à Mexico et qui, en janvier 2011, se rend à la frontière nord du Mexique, à Nuevo Laredo, pour assister à un mariage. Et malgré les protestations de sa famille, il va à la frontière en conduisant toute seule. À la sortie de Monterrey, il s'est fait kidnapper. On le saura après que c'est par les CETAS, par le cartel des ex-militaires formés par l'armée américaine. Il s'est fait kidnapper parce qu'il était ingénieur électronique, ingénieur spécialiste en communication, à une période où le gouvernement avait en partie détruit l'infrastructure de communication des cartels. Donc le cartel a levé des spécialistes pour maintenir, pour reconstruire des réseaux de communication. Les parents d'Alejandro l'ont cherché d'abord à Monterrey, après à Nuevo Laredo, après dans les centres du Mexique, toujours sans réponse. Le corps, il n'apparaît pas. Et ils n'ont jamais demandé de rançon, jamais demandé quoi que ce soit. C'est simplement volatilisé. L'autre histoire concerne Teresa, c'est une dame qui habite à Mexico, mais dont la sœur habitait dans le sud du Mexique, le Oaxaca, qui un jour, en allant chez le coiffeur, se volatilise. Elle ne retournait pas chez elle, et puis, depuis 10 ans, tout ça, et on ne la retrouve pas. Teresa, sa sœur, la cherche pendant ces 10 ans, tout au long des 10 États, on a dit l'avoir vue, etc. Elle a assisté à tous les échelons de l'administration publique. Pas de réponse. Et donc, Teresa a tout changé dans sa vie. Elle a quitté son village, elle s'est installée à Mexico. Elle est devenue une activiste pour la cause des disparus. C'est comme ça que je l'ai rencontrée. Et finalement, l'histoire d'Antonio, qui est un ingénieur civil, qui travaillait chez ICA, c'est la grande multinationale de la construction de bâtiments au Mexique, ingénieur civil associé. était une énorme multinationale qui prospectait des mines dans le nord, dans un état nord du pays qui s'appelle Coahuila. Et donc, ces garçons, ils travaillaient chez eux et ils se sont fait kidnapper. Probablement, on le sait que ce n'est pas les CETAS, parce qu'il a découvert que pour pouvoir prospecter des mines dans ces zones, l'entreprise avait dû payer aux CETAS des énormes sommes d'argent avec la complicité des autorités locales. Et donc, il ne savait pas de tout ça. Et donc, en découvrant ça, il s'est fait kidnapper. Il n'a jamais réapparu. Encore, c'est la même histoire. Les parents le cherchent, etc. Ça fait 7 ans qu'il est parti. On ne l'a pas retrouvé. Ces familles, comme des milliers d'autres familles, vont faire face à une réalité jusqu'alors très peu connue, jusqu'à maintenant même très peu connue, très vue à la distance, c'est-à-dire la violence de la disparition forcée. Presque rien ne connecte ces histoires entre elles. Il ne s'agit pas ni de personnages politiques, ni de guerrilleros, ni de narcotrafiquants. C'est juste des personnes ordinaires qui sont confrontées à des épreuves d'une dureté extrême. Pour ces familles, la perte d'un être cher peut être vécue de mille façons. Et les réactions sont aussi très, très diverses. Mais il y a des éléments en commun que j'ai retrouvés dans toutes ces histoires, plus d'une vingtaine d'histoires que j'ai suivies ces dernières années. D'abord, cet événement, la disparition d'un être proche, est vécu comme un événement, effectivement quelque chose qui arrive, qui est extrêmement disruptif dans la vie de ces familles. C'est-à-dire que ça vient désorganiser tout. Toute la vie s'arrête et la recherche de ses proches devient la seule chose qui compte. La vie tourne autour de l'enquête, de voir les autorités, d'aller les poser des affiches partout, etc., de parler aux médias, d'aller dans des manifs, etc. La recherche de ses proches va occuper la plupart des ressources de ces familles. On calcule que presque 70% des personnes qui ont perdu quelqu'un, donc quelqu'un a été enlevé ou disparu, ont perdu la moitié de leur revenu, de leur patrimoine dans l'année après la perte de cette personne. C'est énorme comme effet. Et bref, toute la biographie de ces groupes de personnes, de ces proches de disparus, se transforme. Donc, la disparition forcée est vécue comme une rupture qui force même à la famille à réactualiser leur notion de temps. Ça se montre surtout dans les langages courants, c'est-à-dire quand on parle avec eux, ils parlent de proches disparus, parfois en présent, parfois au passé. Et donc il y a une espèce de confusion dans les temps, dans la temporalité. Ils ne savent pas dans quel temps ils sont. Avoir un proche disparu, c'est comme être dans une espèce de bulle sans temporalité, où les gens restent attachés juste au moment où la personne est disparue. Et c'est une expérience très très forte de transformation à l'intérieur des dynamiques familiales, une expérience d'isolation sociale, de perte de sens. Et que cette expérience est une de plus en plus forte au Mexique, ça n'a aucun doute. Jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement mexicain comptabilisait à peu près plus de 30 000 personnes disparues. C'est-à-dire, ça veut dire quoi ces 30 000 personnes disparues? Ça veut dire que c'est des 30 000 plantes pour disparition déposées et acceptées par l'État. Ce qui veut dire, ça ne veut pas dire qu'il y a 30 000 personnes disparues, ça veut dire que c'est juste ces 30 000 qui ont été dénoncées. On calcule, il y a des associations qui calculent jusqu'à 2 ou 3 fois plus, puisque pour la plupart des cas, surtout dans les cas des immigrés ou des immigrants qui sont de transit au Mexique, il n'y a pas de plantes, il n'y a aucune plante. Dans les cas des personnes qui disparaissent parce qu'ils soi-disant étaient dans les activités criminelles, il n'y a pas non plus de plantes. Donc on ne sait pas strictement parlant combien de disparus il y en a. Et donc la disparition forcée dans ce sens, pourquoi forcée? Parce que dans la quasi-totalité des cas, y compris les cas qui sont reconnus par l'État, il y a au moins une participation à un niveau donné, soit municipal, soit fédéral, soit national, des fonctionnaires de l'État, soit comme coadjuvant, soit comme facilitateur, soit comme dissuasseur, qui vont dissuader les familles à entamer des recherches. Donc, dans les années 70, la disparition forcée était associée plutôt à une politique de l'État qui consistait à combattre les guérillas dans ce qu'on appelle, on appelait la guerre sale. Et donc, les disparus étaient, la personne disparue était considérée comme un ennemi de l'État, un ennemi de l'intérieur, qui fallait disparaître pour préserver l'ordre public. Donc, il était construit discursivement comme être à disparaître pour pouvoir les disparaître. Aujourd'hui, la disparition forcée, dans ce sens, ne répond plus à ces logiques étatiques. Elle est beaucoup plus diffuse, beaucoup plus... À un moment donné, j'hésitais à dire privatisé, mais ce n'est pas tellement privatisé. Il y a toujours la participation de l'État, mais c'est des logiques complètement diffuses. Ça ne répond pas à une logique de maintenance de l'ordre public. C'est plus autre chose. C'est une hétérogénéité des logiques qui se mettent en place, des acteurs qui sont les uns avec les autres, les uns contre les autres, etc. Et parmi les acteurs, il y a l'État, mais il y a aussi les cartels. Il y a aussi quelque chose que j'ai pu découvrir, c'est la disparition forcée comme une forme simplement qui est associée à la criminalité complètement ordinaire, ou des crimes, des violences familiales, etc. Où on tue quelqu'un et puis on le fait disparaître parce que c'est facile, et c'est plus facile probablement de faire disparaître quelqu'un dans un pays comme le Mexique aujourd'hui. Mais il y a une autre raison qui explique cette invisibilité de cette violence et pourquoi elle est vécue par les familles dans les silences, dans la douleur qui n'arrive pas à se faire connaître dans l'espace public, c'est que dans les langages publics qui parlent pour parler de ces disparitions, il prédomine ce que j'appellerais une narrative de la narco-violence. C'est-à-dire que ces expériences et ces violences sont souvent désignées par les médias, par l'État, etc., dans les bulletins de l'État, comme un exemple de règlement de compte entre narcos. Et donc, tous ces types de crimes, c'est des faits de la violence associée au narcotrafic. Par exemple, les mots qu'on utilise dans le nord du Mexique pour parler de disparition, c'est levantados, que si on traduit littéralement en français, ça serait enlèvement, mais ce n'est pas du tout le même sens, parce qu'un levantado, dans les langages courants, mais c'est un langage officialisé, parce que même dans les bulletins de la police apparaît un levantado, je ne sais pas quoi. Un levantado, c'est une personne qui est enlevée parce que était associée à des activités criminelles. Donc le fait d'être enlevée, c'est déjà lié, c'est déjà une preuve que la personne qui est enlevée est un criminel, et donc ça ne vaut pas la peine de la chercher. C'est ce que veut dire, dans le fond. C'est une personne qui est comptée comme un levantado pour l'État, c'est une personne qui rentre dans une statistique, mais il n'y a aucun dossier qui est ouvert pour aller les chercher, pour savoir où il est, ou qui a commis ce levantamiento, etc. Donc un levantado, c'est par définition une personne liée à la drogue, donc la preuve de cette liaison, c'est qu'il est enlevé. Donc c'est tout un cercle. Et c'est comme ça qu'il est présenté ce discours qui a été institutionnalisé d'ailleurs par le propre gouvernement, par le propre président Calderón, quand au milieu de son mandat, il commence à parler dans son langage de ce qu'il appelle les victimes innocentes. C'est à plusieurs reprises dans la presse, mais aussi dans les dialogues de Chapultepec avec Javier Sicilia et l'association. Il dit, je cite, « Toutes ces personnes qui sont mortes sont toutes des victimes et ça me fait mal au cœur. » Je ne sais pas si, évidemment, c'est vrai, mais bon, il dit comme ça, ils me font mal au cœur, mais c'est surtout qui me font mal au cœur, c'est les victimes innocentes. Et ça veut dire quoi, les victimes innocentes? Bon, ça veut dire qu'il y a des victimes coupables, ça, c'est évident. Mais ça veut dire que les victimes innocentes, c'est ces personnes dont leur vie est digne de considération, et donc leur vie est digne d'être prise en compte par l'État et reconnue par l'État. Ceux qui ne le sont pas, donc c'est les victimes coupables, donc on n'essaye même pas de savoir qui c'était, qu'est-ce qu'il faisait, pourquoi, etc. Ce qui donne à l'État la capacité de donner à lui et seulement à lui de désigner qui peut être considéré comme personne digne de reconnaissance publique et donc de considération et qui, c'est même pas la peine de chercher. Et donc, mais ça a une autre conséquence pour les familles des victimes, c'est qu'elles doivent prouver que leur famille, c'était une victime innocente. Ça le met dans une logique dès le début, a donné des preuves de l'innocence, de la honorabilité. Donc ça commence, j'assistais souvent à des réunions avec les autorités, ça commence par donner des gages, des documents, que la famille dont la personne disparue est honorable. Donc on a un boulot, qu'on a de l'emploi, qu'on n'a pas de rapport avec les narcotrafiquants, etc., etc., etc. C'est la famille elle-même qui est obligée à justifier, à montrer sa propre honorabilité. Donc les mentonnés, ça crée l'illusion dans l'opinion publique que l'on sait, on sait distinguer entre les bons et les mauvais, entre les méchants, comme disait le gouvernement, et les bons. Entre les narcotrafiquants, les criminels et ceux qui ne sont pas criminels. Il justifie et légitime quelque part l'absence d'action de la part de l'État, l'absence de... On n'a même pas de base de données, je veux dire, qu'on puisse savoir combien de disparus, ou en tout cas avoir une estimation, on n'a même pas ça. Et pour les cas de disparition forcée, il y a à peu près 700 cas qui ont été plus ou moins reconnus par l'État. De ces 700, il y en a deux condamnations. Donc deux personnes, deux fonctionnaires qui ont été condamnés. Et on parle de 31 000 disparitions. Donc vous voyez, c'est assez extrêmement irrisoire. Parce qu'il n'y a pas une volonté même de chercher la vérité ou chercher la justice. Donc c'est une véritable gouvernance par remords, comme on pourrait dire. C'est une espèce de gouvernance par la définition de qui est qui est respectable et qui est digne de justice et qui ne l'est pas. Et donc le fonctionnaire qui prend la déclaration, celui qui va suivre le dossier, c'est celui qui a le pouvoir de décider ça. Souvent un cas où on ouvre un dossier et on va entamer une recherche, il y a des dizaines de cas où il n'y en a pas ça. Soit parce que les familles se désistent, donc c'est très coûteux de faire poursuivre les personnes. Il faut se déplacer. La plupart des cas, quand ils arrivent au niveau fédéral, se passent à Mexico. Vous imaginez, on habite à Oaxaca ou dans le nord, etc. Il faut aller une fois au mois, une fois ou deux fois par mois à Mexico pour suivre le cas, etc. C'est pas évident de faire ça. Donc, la disparition forcée est probablement celui... ou l'un des cas de violence extrême qui a le plus d'effets de corrosif dans la société. Non, pas simplement parce que à cause de l'absence de justice, mais aussi par les effets sociaux que ça provoque chez les familles des disparus. C'est-à-dire qu'au niveau des familles, comme j'essaie de le montrer, c'est tout un processus de rétrécissement sur soi qui se provoque, une espèce d'isolement social, et souvent c'est vécu comme un stigmate. On a une personne qui a disparu, les amis commencent à se méfier, enfin, ils commencent à venir de moi en moi, ils commencent à voir des gens qui disent oui, mais peut-être il était mêlé à des choses bizarres, etc. Donc il y a une espèce de stigmate qui est lié à ça. C'est un stigmate qui est vécu, peut-être parce que la plupart des femmes que j'ai interviewées c'est des classes moyennes, je ne sais pas, mais est vécu comme quelque chose de vraiment très douloureux, très, très fort pour les familles. Deuxièmement, il y a un niveau personnel, c'est-à-dire dans les cas des familles proches, les parents, les frères, etc., il y a des véritables tragédies personnelles. Donc ça symbolise presque une perte d'identité, parce que la vie de ces personnes n'est plus la même, et donc ça va se décomposer petit à petit. Il y a beaucoup de cas de divorce, d'alcoolisme, etc. Évidemment, je n'ai pas fait une recherche systématique sur ça, mais ça apparaît dans les interviews. Et finalement, il y a une espèce d'extrême vulnérabilité vis-à-vis de l'État. Ces familles sont doublement vulnérables, c'est le paradoxe de tout ça. Dans beaucoup de ces cas, quand ils connaissent qui a fait disparaître l'être proche, souvent c'est des fonctionnaires de l'État, la police municipale, l'armée, et c'est à eux-mêmes qu'il faut demander la justice. Donc pour les familles, c'est vraiment un cercle plus que vicieux, puisqu'ils savent déjà qu'ils n'auront pas justice ni réparation, parce que c'est le même bourreau à qui il faut demander la justice. face à ces crises, c'est une véritable crise, mais c'est pour ça que je fais mes présentations sur ça, c'est que c'est une crise invisible. C'est-à-dire que si vous penser au Mexique aujourd'hui, hormis les cas très spectaculaires, à forte raison, des disparus d'Ayotzinapa, et d'autres cas qui sont aussi des disparitions massives, je pense le cas des migrants à San Fernando, etc., dans le nord. Je voulais montrer des cas de personnes ordinaires qui sont complètement, se passent complètement dans le silence total de la presse, des médias, mais aussi des partis politiques, des associations, etc. Et face à ça, il y a depuis quelques années, depuis la manifestation de Sicilia, mais pas directement liée à Sicilia, mais comme peut-être conséquence de ça, il y a une ébauche d'organisation qui se met en place avec beaucoup d'associations partout le pays qui commencent à essayer de coordonner des activités, des protestations, mais aussi de faire visible cette réalité de la disparition. Et les conséquences de cela, je voulais finir avec ça, pour montrer la complexité, mais aussi l'ambivalence de l'État vis-à-vis de cette histoire, c'est qu'ils sont obligés à l'État, et surtout au Congrès, à construire une loi qui oblige l'État déjà à typifier la disparition forcée, parce que pour l'instant, jusqu'à cette année, il y avait à peu près 10 ou 12 différentes définitions, selon l'État, selon les différents États, selon les différentes instances. La deuxième chose, et donc on a une typification qui vaut pour tous les pays, mais la deuxième, c'est qu'il y a une loi qui oblige l'État à aller chercher les corps disparus. Parce que pour l'instant, l'État n'était pas obligé de le faire. En tout cas, il ne se sentait pas, il n'y avait aucune obligation de le faire. Et donc, aller typifier les délits de disparition, les différents types, et aller chercher. À côté de cette loi, et c'est dans une discussion que quelqu'un me l'a fait remarquer, en même temps, l'État fait une loi, c'est la loi de sécurité nationale, qui facilite et qui non seulement rend légale l'intervention de l'armée dans des activités qui correspondaient plutôt à des instances policières, mais qui rend légal le fait que l'armée a son propre système de justice qui est à part du système civil. Dans un pays où cette séparation entre l'armée et la vie civile a fait partie de son secret de pacification pendant de longues années, cela montre à quel point il y a énormément de coordonnées qui sont en train de bouger en ce moment, à cause du fait, en grande partie, de l'échec successif, non seulement des gouvernements de droite, mais aussi du gouvernement actuel, de résoudre les problèmes par les hauts, c'est-à-dire par la violence, par imposer l'ordre de l'armée. Bon, c'est un échec, en tout cas pour l'instant, parce qu'on peut emprisonner les leaders des cartels, mais ça ne change strictement rien au niveau de la violence, ni au niveau de l'économie. Donc c'est de l'économie de la drogue, donc c'est un véritable échec. Au contraire, la violence augmente. En partie à cause de ça. Aujourd'hui, cette année sera l'année où il y a le plus d'homicides au Mexique depuis au moins 40 ans. Ça veut dire qu'on sera l'année la plus, une des années les plus meurtrières dans notre histoire, hormis les histoires de guerre civile, etc., révolution, etc. Mais en temps de paix, ça serait l'une des années les plus meurtrières dans notre histoire. Donc, à tel point l'échec de tous ces politiques. Donc je voulais finir avec ça. Ce n'est pas une note de tout optimiste. Je voulais vous montrer la complexité extrême dans un pays comme ça de penser à une sortie de la violence. Je ne sais pas. Je vous avoue que je ne sais pas comment.
Merci. Oui, merci beaucoup pour ce... oui, qui est un véritable contre-exemple, hein, puisqu'en effet, on a de la violence, et puis on n'a pas de conflit armé, et surtout, bien sûr, du coup, on n'a pas de processus de paix. Et donc, en effet, on est sans voix. On ne sait pas. Mais peut-être que vous allez éclairer le phénomène de la même façon, prolonger.
Éclairer, je ne sais pas.
Mais prolonger, peut-être. Prolonger, à propos précisément de ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire de la mafia à la fois locale et globale. Et donc, vous êtes anti-Mofaro,
Vous venez de la Sapienza Università di Roma.
Voilà. Merci de m'avoir invité, Yvon Le Botte et les autres amis. Et je vais aborder le problème de la violence classique, si je peux l'appeler comme ça, physique et démonstrative, qui est faite par les mafias italiennes, qui sont des mafias malheureusement internationales. Et après, dans une deuxième partie, je vais parler d'une violence non physique, justement la violence des cols blancs qui s'exerce à travers les circuits mafieux. Il y a, je commence par le premier passage. Il y a une semaine, le grand chef de la mafia traditionnelle est décédé, Totò Riina. Il était dans un système d'emprisonnement très fort, qui s'appelle 41 bis en Italie. Et lui, c'était le théoricien et le praticien de la violence traditionnelle. C'est-à-dire, lui, il commandait des assassinats, et des assassinats qui attaquaient directement l'État. Il faisait tuer des juges d'une façon platéale, c'est-à-dire à travers des attentats qui faisaient. C'était la même mafia qui a tué les deux juges Borsellino, qui a tué deux juges importants, qui a tué des carabiniers importants, des préfets, etc. Une attaque directe à l'État, si vous voulez, directement. Et c'était son arme de chantage face à l'État, jusqu'à quand l'État ne l'a pas pris. Et l'autre, c'était les attentats platéales, c'est-à-dire attaquer des monuments historiques à Rome, dans les villes où il y a une présence historique, bien entendu, qui date depuis longtemps, qui sont des symboles. Il avait fait faire des attentats à la bombe à ces parties-là. Bien entendu, tout cela, ça voulait affirmer une force farouche de la mafia face à l'État et à la société. Les mafias, ils vivent de quoi? Pas simplement la mafia sicilienne, ce sont toutes des mafias internationales. Il y a la mafia sicilienne, il y a la mafia de la nouvelle couronne unie, comme elle s'appelle, qui est des Pouilles. Il y a la mafia napolitaine qui s'appelle Camorra, et il y a la mafia qui s'appelle Ndrangheta, et qui est la mafia calabrese. Maintenant, il paraît qu'elle soit la plus forte en ce moment. Ces mafias, elles vivent de raquettes, de contrôle des investissements publics. Ça, c'est en tout cas assez récent. Et ils vivent aussi, bien entendu, de la corruption politique et, bien entendu, du commerce de la drogue. Or, pour aller voir un peu mieux qu'est-ce que je voudrais dire, j'ai l'intention de dire par rapport aux mafias, à la violence non physique, je me réfère surtout à celle qui est considérée maintenant, en tout cas d'après les rapports des commissions parlementaires, est considérée la mafia la plus importante, la plus forte, et qui est la 'Ndrangheta calabrese. Cette mafia a une implantation locale, en entendant par local, pas la Calabre simplement, mais l'Italie, une implantation importante dans l'Union européenne, en Allemagne par exemple surtout, et elle est présente en Australie, et elle est présente bien évidemment aux États-Unis, et pour des raisons évidentes, vous savez qu'il y a les descendants d'Italiens aux États-Unis sont la troisième après les Allemands, les Britanniques. Il y a tout de suite après les Italiens, imaginez-vous, où il arrive d'abord à avoir des relations. Et c'est aux États-Unis et Australie. Et ont des rapports particuliers, bien entendu, avec le centre et le sud de l'Amérique. Parce qu'ils sont, il paraît, d'après toujours les informations qu'on peut repérer, il paraît qu'ils sont la mafia la plus forte par rapport aux autres dans le commerce de la cocaïne. Et dans les rapports justement avec les producteurs de cocaïne en Amérique latine, en Colombie, etc. Or, cette mafia qui agit sur les quatre niveaux dont je vous parlais auparavant, elle est présente, je me limite à ce moment-là en Italie, à l'Italie, parce que le rapport que j'ai lu, c'était lié à l'Italie, c'était le rapport officiel de la DNA de l'année dernière, 2016. C'est le dernier. Elle est présente dans presque toutes les régions italiennes, donc ce n'est pas du tout un truc local de Calabre, etc. Même si en Calabre, elle a une présence importante. Et même s'il y a encore spécial des carabiniers qui a été constitué, qui s'appelle les chasseurs de Calabre, qui n'a rien de, bien entendu, de bucolique. Ils s'appellent les chasseurs parce qu'ils doivent chasser les mafieux. Et c'est encore spécial de jeunes qui sont spécialisés à trouver les mafieux qui se créent des bunkers souterrains et ils sont autorisés à casser les maisons pour les trouver. Alors, malgré cela, ils sont très puissants, ils sont présents partout, comme je vous disais, etc. C'est quoi leur activité de violence non physique? La violence physique, c'est celle qui s'exerce contre les êtres humains, si vous voulez. Et s'exerce, ou sinon la symbolique, contre les monuments, pour faire chanter l'État, etc. Et la nouvelle forme de violence s'instaure en s'accompagnant à celle physique et se manifeste avec le coincement et le chantage. C'est-à-dire que on met les dans des structures de pouvoir ou de prise de décision, etc., sont créées des situations de chantage autour pour les personnes qui doivent prendre des décisions et qui sont obligées ou sont corrompues pour les prendre à la faveur justement des investissements de la mafia, etc. Et ça d'un côté. De l'autre côté, et c'est encore plus compliqué, ce sont les cols blancs. C'est-à-dire, c'est plus les mafieux d'antan. Ce sont des gens qui sont bien cultivés, qui ont leur, bien entendu, leur degree universitaire, qui ont leur maîtrise, et pourquoi pas leur PhD, leur doctorat, et qui agissent dans les systèmes financiers, qui s'occupent d'intervenir pour recycler de l'argent recueilli d'une façon ou de l'autre par l'organisation criminelle et pour la faire fructifier. Pourquoi c'est une violence? Ça pourrait être n'importe quel spéculateur fait ça. Soros, il fait ça, il prend des sous, il les met. C'est une violence parce qu'elle est faite dans l'objectif d'apporter des avantages à l'organisation mafieuse tout en écartant toute possibilité de distinguer entre l'activité criminelle et l'activité, disons, financière normale. On peut critiquer autant qu'on veut les financiers, etc., la séparation entre le capital financier et le capital de l'économie réelle, etc. Mais là, c'est fait exprès, dans ce but-là. C'est fait dans le système financier, c'est fait aussi dans le système, je vous disais auparavant, pour les travaux publics. Il y a des experts, des gens qui sont des ingénieurs, des gens de haute qualité aussi, qui travaillent dans le système mafieux et qui créent des situations de contraintes afin d'avoir des investissements à la faveur des organisations mafieuses pour leur permettre de tirer des avantages surtout dans les travaux publics, les grandes infrastructures, etc. Or, qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a à faire contre des actions de ce type-là? C'est très compliqué parce que c'est difficile justement de distinguer quelle est l'action qui est faite au niveau financier, des investissements publics, etc., de l'action qui est faite, disons, à la faveur de la mafia par d'autres qui ne le sont pas. C'est très, très compliqué et les juges et les appareils de police ont des difficultés à saisir ça, mais ils y arrivent de temps à autre, mais il y a une difficulté majeure. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Ça veut dire que nous avons... J'avais un quart d'heure, non, c'est ça?
Oui, vous avez encore...
3 minutes.
Non, 5-6 minutes.
Non, 5-6 minutes. qu'est-ce que ça veut dire que cette distinction que j'ai faite entre violence physique, violence démonstrative et violence, comment dire, non physique? Bien entendu, empiriquement, c'est évident, on tue des gens au premier abord dans la violence physique et dans la violence démonstrative, on fait peur, pas simplement à l'État. Moi, j'habite pas très loin des attentats qui ont été faits à Rome. Et disons, les gens, ça peut créer de la peur. Aussi. Mais la dernière, c'est une violence qu'on ne saisit pas. C'est une violence. Parce que ce type de violence-là intervient d'une façon forte. Pourquoi les violences? Et les violences parce que conditionnent les investissements, conditionnent le développement des travaux publics, conditionne l'organisation spatiale des villes et conditionne d'une certaine façon, bien entendu, la vie des gens qui vivent dans ces... Bien entendu, ce n'est pas la même chose que si Louis tout à l'heure racontait, c'est évidemment, ce n'est pas la même chose. Mais c'est une forme de violence que je pense subtile et qui, maintenant, ça devient une figure, je pense, majeure des activités criminelles liées à ces mafias-là. Je répète, je n'ai pas insisté beaucoup, je n'avais pas le temps, sur le niveau vraiment international, et internationale, pas seulement européenne, de ces opérations qui sont faites dans les parties du monde dont je vous ai parlé. Je vous remercie.